Messieurs, dames, bonjour.
Muteki, yo, quoi ça?
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki, comme tous les samedis matins.
Comme tous les samedis, contrairement à tous les samedis matins, on commence pas à 9h, voilà. Mais à culpa, mais à maxima culpa. Il paraît que c'était Noël, alors il paraît qu'il fallait balancer des trucs en latin. Donc voilà, c'est ma faute, c'est moi qui suis arrivé à la reboue, la bure.
On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, vous allez encore remettre ça à lundi, donc soyez...
Soyez toujours frais pour cette fin d'année, c'est ça? C'est le mot en ce moment, frais.
Toujours dans la parcimonie, n'est-ce pas?
Oui, puis...
J'essaye de caler les CD, hein, vas-y. Donc,
voilà, d'accord. Meubler, alors bon, dans cette émission, l'ADER de l'année, donc avec un petit peu de retard, mais avec Gwegs, le dernier épisode, comme c'est la dernière de l'année, le dernier épisode de notre série sur les tokusatsu, avec le conseil de regard dur de Gwegs qui résume un petit peu toute la grande discussion qu'on a eue, si vous voulez débuter vos visionnages, vos découvertes de séries. Et il y en a plusieurs, ils sont nombreuses, les nombres de franchises et le nombre de séries, puisqu'on rappelle que le principe c'est qu'il y a une série par an. C'est comme ça que ça se passe au Japon. Comment ça va, mon Romain?
Ça va, hein, fraîchement, hein. Mais
bon, là, c'est bon. Alors,
on est tout bien là. Ça a été un petit peu chaotique pour commencer. Oui, ça va bien. On aura une émission diverse. J'ai envie de dire comme d'habitude. On a commencé avec Shell Bana, le générique de début inoubliable de Witch Hunter Robin. Hein, donc ça a déjà quelques années. Il y aura la fin enfin. Pas enfin dans le sens c'est enfin fini, mais puisqu'on aura quand même pris le temps pas loin d'une année, hein, pour l'interview de Gwegs,
voilà.
Grand spécialiste Sentai Tokusatsu, que personnellement j'ai hâte de rencontrer, puisque je pense que ça m'a l'air d'être quelqu'un, ma foi, de fort sympathique.
Monte sur Paname avec moi un
avec
jour.
Qui,
monte sur Paname.
Avec qui je pourrais parler, je pense, pendant de longues heures. Des discussions qui n'intéresseront certainement que nous deux, mais
j'imagine la scène
qui se tiendront avec plaisir.
Déjà, moi qui suis pas un spécialiste, l'après-midi soirée en fait, qui a permis d'enregistrer cette heure d'interview, on a commencé à 6h du soir, on a terminé à 1h du matin, c'est te dire.
Dans un état que j'imagine. Et exact. On aura aussi, justement, puisque là on parlait de Sentai, on va continuer un petit peu la rétro des super-héroïnes, puisque là on part pour quelques semaines. Il y aura du Nadia, d'une amie amoureux, juste maintenant pour commencer, notamment également après toi, tu auras quelques petites choses plus récentes, notamment...
Des chansons de l'année 2012, justement.
Hein, voilà, parce que moi, je suis plus 80-90.
Romano la brocante.
Et toi, t'es plus voilà. 2012, bientôt 2013, même, j'ai envie de dire. 04 78 39 18 15 pour nous appeler.
www.myspace.com ou facebook.com/, c'est le même, Muteki Kanu.
On est grave à la bourre, donc on y va. Nami Amolo, Amolo Nami est tiré de l'album Queen of Hip Hop, Want Me, Want Me, Muteki jusqu'à 10h.
Oh, Muteki, une heure de J-Rock et de J-Pop avec Damien et Romain. Que des mecs en un, mais ils sont deux.
Voilà, vous êtes toujours sur Muteki jusqu'à 10h pour cette dernière de 2013. Juste à l'instant, ma foi, un générique fort sympathique, très popinet.
Très mignon. Mysterious Eyes tiré du best-of Détective Conan.
Tout à fait.
Ça me fait toujours penser, Détective Conan, ça me fait toujours penser à cette espèce de crossover improbable qu'avaient imaginé Florence Torta et Philippe Cardona, à retrouver évidemment dans la BD aujourd'hui de Noob, mais qui ont dessiné auparavant d'autres séries comme Sentai School, et eux avaient fait un crossover complètement improbable entre Conan le barbare et Conan le détective.
Oui, ça devait être bien n'importe quoi. Oui, ça,
c'est Conan clair. Le détective barbare, oui, vous avez deviné.
D'accord. une série d'ailleurs... encore à l'antenne, qui existe depuis une bonne dizaine d'années, dont le nombre de mangas dépasse 75 tomes, et qui a eu un nombre incalculable de génériques, et donc de best-of, et c'est effectivement une série qui est très réputée pour son côté musical, puisque voilà, toutes les plus grandes pointures de la pop et du rock au Japon, actuellement, ou ces dernières années, s'y sont plus ou moins collées, et ça a lancé aussi pas mal d'artistes.
Au niveau du manga, ils sont presque à suivre les traces de JoJo's Bizarre Adventure, voilà, qui est Aoyama... le plus long manga encore en activité, avec plusieurs, évidemment, plusieurs étapes, plusieurs arcs.
Aoyama Gocho, qui est donc l'auteur, lui, ça c'est la série de sa vie. Hein. Il y a même un parc qui est un musée parc qui est dédié à Conan, je sais plus où, dans sa ville natale de l'auteur. Et donc voilà, on enchaîne avec quoi alors?
Avec le triplet de 2012.
Découverte, session, nouveauté.
Du rock, de l'électro rock. De l'électro. Voilà, on va commencer avec Storyseller, la nouvelle signature du label Bishi Bishi, qui se diversifie un petit peu. Ils font plus dans le japonais ce coup-ci. Ce coup-ci, c'est du coréen. Oui, bah oui, bah pour une fois, on en met de temps en temps.
Ah, les ennemis, quoi.
Oh là 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 là. Eh, on en a passé en premier sur la bande FM, hein. Merde.
Ouais.
Alors après, je sais pas qui c'est qui pourra vérifier ça, mais en fait, nous on en passait dès 2007, un truc comme ça.
Oui,
avec,
on en voilà. passait, tu en as amené quoi.
Non, c'était même pas moi le spécialiste.
Ah non, c'était même pas toi.
C'était Chris, notre Chris national.
Je suis pas réactionnaire, je suis
notre Jack Sparrow.
Je suis pas contre. Voilà, il est effectif que la pop coréenne attire de plus en plus de monde. Quand on voit notamment le succès phénoménal des deux dates qu'il y a eu, c'était où à Bercy?
Bercy au Zénith.
Deux soirs de suite.
Voilà, c'est Bercy.
Complet,
c'était impressionnant. Hein.
Non mais deux Bercy, c'est-à-dire que t'as des artistes de rock nationaux ou même internationaux.
Non, mais ça a dû coûter un bras à tout le monde, aux Coréens comme aux Français. Je veux dire, ça a été un succès.
Joli OPCOM quoi. Et donc voilà.
Là c'est du rock. Donc
On y va alors.
Storyseller.
Du rock coréen alors.
Ouais. 18th Area, c'est tout de suite dans Muteki, c'est jusqu'à 10h. We'll be right back.
無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ、いつだって9時から10時までに決まってるだろうが、ふざけんな。To remove the fear from your eyes. Get up and run.
Voilà.
Montez
le potard. Yuxek versus Miyavi. C'était juste à l'instant, Day One.
Cru dans une rave.
Cette fameuse collaboration, à la fois improbable et tout à fait logique. Les styles des deux garçons se mariant très très bien. On vient de le voir à l'instant.
Bah, c'est de façon plus générale, c'est l'électro qui se marie bien avec le rock, quoi. Parce qu'après, ce que fait Yuxek en soi, c'est quand même effectivement de l'électro très dynamique. Et Miyavi, lui, il a jamais eu d'incursion, on va dire, dans ce milieu-là. Donc, c'est quand même deux grands noms. Musicalement dans des univers musicaux différents quand même, deux pays différents qui auraient normalement jamais été amenés à se rencontrer et qui font une collaboration ensemble, en plus un bon titre.
Mais en plus de ça, Yuxek,
j'ai envie de dire un bon titre.
Les deux tournent de par le monde, donc après il suffit de malentendu.
Miyavi a une bonne carrière internationale, mine de rien, pour
ça peut conclure. Voilà. Juste avant, c'était Queen of the Rock, et pas Queen of Rock,
Queen of the Stone Age.
Exactement, Anna Tsuchiya avec Tomoyasu Hotei, tiré de cet album qui est sorti cette année, 12 Flavor Rock Song, parce que c'est pas tellement des chansons d'amour. L'album donc de Anna Tsuchiya avec plein de featuring dedans. Voilà comment décrire cet excellent album. Juste en ouverture, c'était 18th Area de Storyseller, les rockeuses coréennes, désormais chez Bishibishi.
Un son bien sympa. Quelques petites news, puisque qu'on reprenne un petit peu le cours de l'émission, on terminera sûrement un petit peu en retard. Mais alors on parle de Miyavi juste à l'instant. Miyavi qui revient le 20 février avec un nouveau single qui s'appelle Ahead of the Light. C'est son premier depuis plus de 6 mois. Diran Gray retour également le 3 avril. Donc là, ils viennent de sortir un single au mois de décembre. Il y a un nouveau mini-album qui est extrêmement attendu qui s'appelle The Untraveling. Le 3 avril, en 3 éditions, et il y aura 7 chansons. L'inoxydable, l'impérissable, l'immourable, si ça se dit pas, mais Hamasaki Ayumi,
oula,
toujours présente dans le milieu musical japonais pop, le 8 février, avec quand même son 14e album. Ça, c'est juste son 14e album normal. C'est sans compter les innombrables CD de remix, de compil et autres joyeusetés. Donc, ça sort le 8 février pour 3000 yens. Ça s'appellera Love Again. Komulo Tetsuya, qui continue à ressortir tous les fonds de placard après avoir voulu reformer Globe, TM Network, ressorti des CD de TM Network, essayer de reproduire un peu tout ce qu'il fait, tout vraiment il fait tout ce qu'il peut. Il avait même donné une suite à un album Digitalian is Eating Breakfast 2 qui était sorti l'année dernière et dont le dernier opus était sorti dans les années 90. Et ben maintenant il fait tomber une des dernières barrières et il reforme Tellafu, un groupe de pop au Japon mythique des années 90, hein, ça a quand même relativement mal vieilli, qui n'avait rien sorti donc depuis une bonne quinzaine d'années. Le 25 février, Watch the Music, premier mini-album en 15 ans, donc ma foi.
Et je suis content, hein, on a réussi à parler de Tetsuya Komuro sans prononcer le mot prison. Merde, c'est fait.
Voilà. Ouais. Oui, non, mais bon, c'est derrière lui, mais je pense qu'il doit avoir quelques petits arriérés encore. Et enfin, pour les fans de Macross, une petite news animation. Je vous avais parlé du film un petit peu concept Macross Fire Bomber 7, qui à la fois est une nouvelle histoire qui tourne autour de Macross Frontières et qui incorpore des éléments de Macross 7. Il y a un petit peu tous les persos de ces deux séries-là, notamment j'ai pas très bien compris, enfin c'est un petit peu abstrait, mais ça sera prétexte aussi à un résumé de Macross 7.
Et que nous aurons de plus amples informations.
Je sais pas trop comment, mais enfin bon. Ça s'appelle Ole no Uta o Kike, ça sort le 24 avril, enfin le film apparemment a une sortie discrète au cinéma il y a quelques mois. Et donc ça sort le 24 avril en 3 éditions, DVD, Blu-ray et Blu-ray Collector. Et dans la Blu-ray Collector à 7 800 yens, vous aurez des bonus, un livret, des clips notamment sur les nouveaux titres des Fire Bomber et moult autres joyeux. C'était pour les fans de Macross.
Dernier épisode désormais de notre série, de notre feuilleton Tokusatsu en compagnie de Gwegs. À noter également que l'émission en podcast sera mise en ligne uniquement ce soir. Pourquoi ? Parce qu'on va remettre en forme et remettre en ordre toute cette heure d'interview que vous allez avoir en supplément, en plus de cette émission.
Agrémentée
de quelques petits bonus. Oui, une heure en un an, exactement.
Pas mal quand même.
Une heure résumée en un an. Et bien justement, pour résumer la chose, si vous voulez vous intéresser à cet univers, si vous n'y connaissez pas forcément grand-chose, mais que vous, c'est vous cherchez la série qui va vous accrocher, voilà le conseil du Père Gwegs. Parce que tu as, parmi toute la collection Intoku, en conseil de regard dur, comme dirait Katsuka.
Moi, je recommande Garou. Mais vraiment, c'est-à-dire que on est loin justement du Sentai ou du enfin du Toku pour enfants, parce que c'est ça, c'est que de toute façon Super Sentai et Kamen Rider sont diffusés en double programme le dimanche matin à 7h du mat. Amemiya Keita, donc le créateur de Garo, s'est posé la question, qu'est-ce qui plairait aux mecs de ma génération qu'on grandit avec du Rider, avec du Kamen Rider ou des trucs comme ça. Parce qu'il avait fait des trucs déjà un peu adultes avec certains Riders, avec, si je me souviens bien, c'est lui qui a écrit Kamen Rider ZO. Il a des trucs un petit peu...
musclés, quoi.
Un petit peu, bah, avec un enfant monstre, tu vois, des trucs un peu crado. Oui. Et donc, il s'est dit, voilà, moi j'ai envie de faire un toku pour adultes. Et il a écrit Garou. Alors forcément, la première saison date de, si je me souviens bien, de 2003, 2004. Donc elle a pris un petit coup dans l'aile au niveau des effets spéciaux. Mais honnêtement, sincèrement, passez outre et regardez-la, parce que rarement on aura une série fantastique, parce que voilà, moi à la limite je la mettrais en parallèle avec Buffy, mine de rien. C'est-à-dire que ça, d'un premier abord c'est un peu concon, mais ça aborde pas mal de sujets sérieux avec les moyens du bord. Donc c'est vrai que comme Buffy t'as des fois t'as des effets un peu pourris, mais bah, c'est comme Whedon en fait, le mec aime ce qu'il fait, et on se retrouve avec une vraie mythologie propre à la série, inspiré de la culture japonaise, mais avec un truc propre vraiment à la série, des personnages attachants. Je veux dire que moi, j'ai une distance par rapport à ça, mais il y a un épisode qui m'a fait chialer, quoi. Il y a un passage de super touchant, parce qu'il y a un personnage secondaire féminin qui est super touchant, qui explore son passé, et le truc, il y a un moment de tendresse et t'as la boule dans la gorge, quoi. Quand je l'ai vu, je fais waouh. Et cette série-là, c'est ça. Il y a de la violence, il y a des meufs avec des seins à l'air, parce que bon, il y a une histoire de démon, justement, qui profite de la cupidité des gens. T'as un sculpteur qui veut être tellement bon sculpteur qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sculpte ses modèles. Tu vois, par exemple, il y a des trucs en argile, et en fait, quand il bouge l'argile, c'est le modèle qui bouge. Donc, quand il arrache un membre, c'est. Voilà. Donc, t'as des trucs, tu vois, t'as un truc, c'est très Brian Yuzna, la première saison. C'est-à-dire, un mec qui est amoureux d'une femme poisson, c'est une sirène, mais pas du bon côté, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Cette série-là, la première série est assez courte, elle dure 20 épisodes. Il y a eu un téléfilm qui est assez sympa. Ah oui, il faut dire un truc quand même, c'est que dans cette série, il y a des personnages, il y a des gueules. Tu vois ce que je veux dire ? Contrairement à pas mal de trucs au Japon, cette série-là, elle a des gueules. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément au canon de beauté ou de physique que tu as l'habitude de voir dans les trucs. Tu as des personnages qui ont vraiment des physiques. Et qui font que voilà, ça installe des persos. T'as le Kodama, par exemple, le majordome muet. C'est un acteur métis eurasien. Il est cascadeur, il a été plusieurs fois champion du monde d'arts martiaux, il a été doublure costume dans pas mal de trucs. C'est un mec qui bouge comme un dieu. Il a un physique un peu particulier. Et ben voilà. Déjà, ce mec-là, quand il bouge, tu fais waouh, tu te tais, quoi. Et en fait, c'est lui qui double pas souvent l'acteur principal. Parce que l'acteur principal est un excellent combattant, mais il y a des choses qu'il sait pas faire.
Mais les répliques, par contre, c'est pas son fort, voilà.
Voilà. Et il y a une actrice, je t'ai montré des photos, celle qui joue Jabi. C'est une meuf qui est.
Extrêmement charismatique.
Voilà, elle est charismatique. C'est pas un canon de beauté japonais, d'actrice japonaise. Elle a une gueule. Elle est
non, très... mais le regard de braise, par voilà. contre.
Elle a un regard de.
Un
ouf.
Regard de combattante.
Voilà,
et qui parle tout de suite.
Et
ouais.
cette fille-là, par contre, elle n'est pas doublée. Quand elle fait des trucs, elle fait des trucs toute seule. Elle n'est jamais doublée. C'est une elle est cascadeuse, danseuse, acrobate. Et voilà, il y a des personnages comme ça. Quand on a des personnages joués par des gens avec un physique et tout, qui sont dedans, c'est magnifique, quoi. Déjà, vous matez-vous cette série. Ensuite, il y a le téléfilm, White Knight, qui a introduit un nouveau guerrier. Parce qu'en fait, oui, je ne vous ai pas dit. C'est que dans Garou, le héros peut se porter une armure d'or avec une tête de lion. Il a oui, parce que je n'ai pas dit ça. Il est genre beau gosse avec un impère en cœur en cuir blanc avec une épée. Et quand c'est vraiment un peu la merde, il se transforme. En fait, pour décrire ça.
Ceux qui sont allés à Chibi Japan Expo.
À Japan Expo l'an dernier.
C'était Japan Expo. Ceux qui sont allés à Japan Expo l'an dernier peuvent se souvenir.
J'ai porté un costume fait par un pote qui s'appelle Jérôme. J'étais un méchant, il était gentil. Il portait l'armure de Garou. En fait, pour décrire la série en trois mots, je dis un peu, c'est une sorte d'Onimusha en série live. L'acteur et enfin le héros se bat en civil, et quand c'est un peu la merde, il se transforme et porte une armure. Il y a eu un film qui est sorti l'an dernier qui est sympa mais un peu passable, comme je te disais, c'est qu'il n'y a pas de... Le héros est tellement lumineux, tellement présent, qu'il n'y a rien en face de lui. Donc c'est vraiment... voilà, c'est... il manque un peu... Il manque quelque chose. Et là... Mais et ils ont sorti une nouvelle série, alors uniquement en DVD, elle n'est pas sortie à la télé au Japon, c'est très dommage, qui s'appelle Makai Senki. Ah oui, il y a eu un téléfilm, un court-métrage sur Kiba, le personnage que je portais en armure, pour expliquer justement à quel point que c'est pas juste un méchant, tu vois. Et très très beau, très bien fait, avec des animations style coup de pinceau, comme je disais. Et il y a la série Makai Senki, qui est une merveille, parce que maintenant que les personnages sont installés, maintenant qu'on est au courant de la mythologie, de comment fonctionnent les monstres et tout ça...
C'est la deuxième série de Garo.
C'est voilà. La deuxième saison, sortie uniquement en DVD. Maintenant qu'on est au courant de tout ça, bah, l'auteur se permet des digressions. Il se permet d'avoir des trucs, des épisodes super, super cool, comme je t'expliquais avec l'initiation du prêtre, là, et la fiancée du héros qui le suit. Il y a... Des fois, il y a des épisodes où on ne voit jamais le héros, parce que ça se concentre sur un personnage secondaire, et il y a un fil rouge quand même. Et on est emporté, et on suit le truc, et c'est classe. Et je veux dire, une série qui a une telle mythologie, qui se permet d'emporter les gens comme ça, bah c'est rare, quoi. Et c'est une série qui parle adulte, qui parle aux adultes, mais qui a encore un esprit un peu imaginaire, quoi. Et ça c'est quand même vachement la classe. Donc Garo, si je devais recommander un seul toku, Garo.
ピリ泣き虫笑い虫
Bon, alors là, épique. C'est pas, hein, évidemment, c'est pas récent.
Et c'est pas, Garo.
Et c'est pas, non, bah non, c'est
non,
pas Garo.
C'est bien plus vieux que ça.
C'est pas Garo, non. Golenja, c'était le thème de Momolenja.
Mais on avait commencé justement l'heure d'émission, d'interview, par Go Ranger justement. Distinguer Goranger et Gokaiger qui sont deux bouts, deux décennies de différence.
C'est carrément
deux à trois décennies de différence.
Au debout du bâton.
Exactement. Du bâton, c'est exactement ça.
Momolenja, nos thèmes. Donc Momolenja, force jaune, voilà, ou force rose, je sais plus. Oula, je vais me faire taper, j'en sais rien. Faudra que je demande à Laurent, tiens.
Bon, donc on demande à Gwex justement, et on le remercie énormément au passage.
Bien sûr.
Gwex a retrouvé tous les. Alors je sais plus, je crois que c'est une mensuelle ou un truc comme ça. Dans Costume Player, l'émission sur No Life, et à retrouver également sur No Life Online la soirée spéciale Cosplay No Telebi. Non, Furonsu No Telebi, Cosplay No Bangumi. Voilà, c'était ça.
Voilà, allez-y.
Le nom de la soirée spéciale Cosplay avec notre des comptes rendus du World Cosplay Summit pour les spécialistes. Le championnat mondial de cosplay, oui, ça existe.
Bon, j'en doute pas. Et puis, on va vous souhaiter un bon réveillon, de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Toi, tu as mis la bonne chanson derrière, tu sais.
Ah,
avec la...
toujours.
Voilà.
Ah, et 12 ans
propice
et 12
aux vœux.
12 ans d'émission, hein.
Bah bientôt 13, maintenant 12 ans 13. Et demi en plus, un truc comme ça.
Fushigi no Umi no Nadia Secret of Blue Water, Bye Bye Blue Water, une chanson spéciale tirée donc de l'album éponyme Bye Bye Blue Water qui était sorti à la toute fin de la série. C'était un petit peu un album complémentaire qui contenait notamment des dramas, des chansons de doubleur. Là c'est une chanson dans laquelle interviennent un petit peu tous les personnages. Bye Bye Blue Water, Bye Bye
pour l'année 2012.
Bye bye 2012, j'ai envie de dire. Ta-da-da, ta-da. Portez-vous
moi,
bien.
Je fais les jingles à la voix maintenant. T'es.
Vive le son japonais, on se retrouve en 2013 à l'heure.
Ouais, à l'heure.
À 9h pour la première de l'année. Soit
taper sur les doigts après l'émission.
Samedi prochain.
Allez,
à la semaine prochaine. À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Bye bye, Blue Water.